Je voudrais commencer par dire quelques mots sur la conférence, la présentation de Vanda. Ça me semble extrêmement intéressant, justement, la manière dont tu as analysé le processus de découverte d'Einstein. Moi, je trouve que c'est quand même globalement très convergent avec l'approche qu'on a eue dans notre livre, c'est-à-dire que...
C'est qui suivait la piscine.
Oui, voilà, c'est
quand
ça.
Quand on est sorti de la piscine.
Voilà, donc oui, on se retrouve tout à fait. Et il me semble que c'est justement assez exemplaire de la façon dont, lorsqu'on analyse finement les processus de découverte d'un scientifique, on peut repérer différentes analogies à différents niveaux, d'une façon justement fine, complexe. C'est jamais des applications automatiques, c'est pas des schémas préconstruits, parce que sinon justement on serait pas dans la découverte. Et donc j'ai trouvé que tu rendais compte parfaitement justement de c'est tout à fait l'esprit qu'on a eu en étudiant la démarche d'Einstein également sur la relativité, d'essayer de débusquer ces analogies sans lesquelles il aurait été inconcevable qu'il aboutisse à ces résultats. Et il y a peut-être un point qu'on peut aussi mettre en valeur, c'est le fait que ce qui sous-tendait aussi la démarche d'Einstein, qui était une espèce d'analogie, on va dire de méga-analogie, c'est cet instinct d'unité cosmique. C'est-à-dire que ce que Banesh Hoffman souligne particulièrement, il y a par exemple Einstein qui dit à un moment, l'idée qu'un principe ayant généralité tellement large puisse valoir précisément dans un domaine de la physique, mais en même temps ne pas valoir dans un autre domaine, me frappa comme a priori assez peu probable. Donc vous voyez qu'il y a cette idée très forte que lorsque un résultat a été montré dans un certain champ, eh bien, le principe d'unité cosmique fait qu'il y a de bonnes raisons de penser que ça peut s'étendre. Et ça, c'est une forme de généralisation par analogie qui peut guider toute la démarche d'un scientifique tout au long de sa vie. L'intervention de Marc, il me semble que peut-être qu'il y a un quiproquo. Et ce quiproquo, je pense qu'il est peut-être pas tellement sur le fond, mais qu'il y a aussi des aspects de terminologie qui seraient intéressants d'approfondir. Parce que l'idée d'invariant, elle est pour nous absolument omniprésente, et on dirait que ce sont en général les invariants qui fondent les analogies. C'est-à-dire l'invariant, c'est ce qui rend analogue, c'est ce qu'on conserve qui permet de dire qu'il y a analogie. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, un autre aspect, c'est que nous, on défend, c'est le cœur de notre livre, c'est on défend une vision unifiée de l'analogie et de la catégorisation. Et c'est un peu l'originalité, la particularité de notre démarche. Et donc, c'est une vision de l'analogie. C'est pas très étonnant que Lakatos ne parle pas fréquemment d'analogie, parce qu'il ne se place pas dans une perspective aussi large de l'analogie. Donc je pense que ça serait un désaccord potentiellement pas conceptuel, mais vraiment je pense qu'il faudrait plus rentrer justement dans les questions de conceptualisation pour savoir où est-ce qu'il y a accord et où est-ce qu'il y a désaccord. Et si jamais on adopte la perspective, la même perspective que la nôtre sur l'analogie, je pense que Lakatos pourrait nous rejoindre aussi assez souvent. Et puis un autre aspect, c'est l'idée, donc je pense que la présentation de Vanda l'a très bien montré, c'est que il y a des quantités d'analogies à chaque fois à de nombreux niveaux. Donc l'idée, c'est pas de trouver une analogie qui fonctionnerait de manière unique, mais à l'inverse des multitudes d'analogies qui contribuent à différents niveaux à la découverte. Revenir peut-être un peu sur la question de la distinction entre analogie et catégorisation, c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que si on aborde cette question, on se pose la question, si on utilise deux mots différents, deux termes différents pour parler d'analogie et de catégorisation, sur quoi est-ce qu'on le fonde? Sur quoi est-ce qu'on fonde cette terminologie différente? Et une manière sans doute un peu systématique de procéder, ça serait de se dire, qu'est-ce qui différencierait potentiellement ces processus? Et vous avez ici un ensemble de dimensions candidates, au sens où, si on interroge une, si on faisait un petit échange entre nous et qu'on essayait de voir à votre avis qu'est-ce qui pourrait différencier une catégorie d'une analogie, qu'est-ce qui pourrait différencier la catégorisation de l'analogie, on trouverait sans doute ce type de proposition. Donc on irait souvent vers l'idée que la catégorisation, ça concerne plutôt des entités, alors que les analogies, ça concerne plutôt des structures complexes, que la catégorisation est plutôt inconsciente, l'analogie consciente, que la catégorisation serait plus automatique et l'analogie contrôlée, que la catégorisation serait plutôt omniprésente et l'analogie ponctuelle, que la catégorisation serait certaine et l'analogie incertaine, que la catégorisation reposerait sur une grande similitude, alors que l'analogie ferait appel également à des dissemblances, que la catégorisation reposerait sur des entités à des niveaux d'abstraction différents, alors que l'analogie se concernerait des entités à un même niveau d'abstraction, que la catégorisation ne serait pas créative alors que l'analogie le serait, que la catégorisation serait objective alors que l'analogie serait subjective. Alors sur ces distinctions, il y en a sûrement un certain nombre où vous sursautez en vous disant « mais non, je ne suis pas d'accord », et puis d'autres où vous dites « ah oui, ça me tente ». Et justement, l'idée, c'est de montrer qu'elles sont tout autant arbitraires les unes que les autres. C'est un exercice qui prendrait peut-être une demi-heure si on voulait le faire sérieusement, et on l'a fait dans notre livre, donc si vous avez envie de rentrer dedans, c'est tout à fait accessible, hein. Mais je pense que si on n'a pas saisi cela, il y a la porte ouverte au quiproquo, justement, de presque terminologique, ou en tout cas, il faut savoir distinguer en quoi est-ce que, dans ta conception d'analogie de catégorisation, sur quel axe tu t'appuies, quelle dimension tu distingues entre l'un et l'autre. Toujours, alors là, c'est presque ludique, parce que on est rentré dans des notion scientifique un peu ardue, donc je voulais faire un petit intermède. C'est pas uniquement pour le comique, hein, c'est aussi pour illustrer justement cette proximité entre analogie et catégorisation. C'est que si on regarde ces deux photos, est-ce que vous avez l'impression que vous faites une analogie ou vous êtes en train de construire une catégorie ? D'accord ? Et j'espère que vous allez vous dire spontanément, on fait les deux. D'accord ? Tout le monde est d'accord qu'on fait les deux ? Bon, ok. Et vous voyez que de cette manière... Qui n'est pas d'accord ? Bon, on peut en reparler, oui.
On peut en reparler, mais oui. Juste un thème, peut-être, oui. Moi, je toucherai un petit peu, c'est le fait qu'il y a une construction collective aussi, dans une culture donnée.
Oui.
Une informatrice que beaucoup ici connaissent, qui est québécoise, me disait que, vous connaissez le chanteur Robert Charlebois, il a une étrange gueule, ce mec, il est sympathique, etc., c'est pas du tout dépréciatif, et elle me disait, au Québec, il y a pas mal de gens qui ont cette gueule-là, et on les appelle maintenant des Charlebois. Catégorisation...
Par analogie. Hein ? Par analogie.
Oui, bien sûr.
Voilà, pas très... Non, mais parfait, c'est une excellente illustration. Oui. Donc, vous voyez que de cette manière, on peut comme ça... je pense que vous aviez peut-être de vous-même imaginé le troisième, non ? Il est en thème. Et alors, si on approfondit un peu le phénomène, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Alors, vous voyez qu'à la fois, on construit une catégorie, d'accord ? Et puis en même temps, on est en train aussi d'extraire des invariants. C'est là aussi où je trouve que la notion d'invariant apparaît. Alors, ce n'est pas des invariants très formalisés, d'accord, mais quels invariants ? Les cheveux blancs, la moustache, c'est un certain style de visage. Et puis, ensuite, au fur et à mesure qu'on développe cette catégorie, toujours par analogie, elle va évoluer. On voit aussi l'idée que les catégories évoluent de manière dynamique, hein, c'est-à-dire que chaque nouvel exemplaire rencontré apporte sa contribution à la catégorie. Et puis, comme toutes les catégories ont des frontières floues, et on peut se poser la question de quelles sont les... On peut s'interroger sur l'appartenance potentielle d'une entité du monde à cette catégorie, d'accord ? Est-ce qu'elle en est proche ? Est-ce qu'elle en est très loin ? De la même façon que si je prends les objets qui nous entourent, je cherche quels sont les membres potentiels de la catégorie table, eh bien il y a des membres évidents qui sont les tables qui nous entourent, mais sans doute ici c'est pas très loin de la catégorie table, peut-être qu'un certain nombre d'entre nous l'accepterait. En revanche, cet écran, sans doute on ne le mettrait pas du tout dans les tables. Et vous voyez, là encore, comme ça, on peut comme ça avoir des candidats qui seront plus ou moins analogues, plus ou moins membres potentiels de cette catégorie. Et puis, si on faisait le tour de l'assistance, d'accord, on pourrait plus ou moins s'évaluer sur notre potentialité d'appartenance à la catégorie. D'accord ? Et,
c'est bien d'avoir mis un intrus aussi.
Oui, c'est qui l'intrus ?
Tu veux dire Frostfin ?
Pas vraiment. Ok. Et aussi de décider qui sont les intrus, hein, ça fait partie. Bon, c'est pour un peu montrer le côté vraiment, le fait que c'est deux processus duaux, la catégorisation et la réalisation d'analogies, parce que vous voyez comment sur un cas comme celui-là, on a à la fois de l'extraction d'invariants, on a construit une catégorie sur la base d'analogies. On a en permanence des situations où on peut comme ça être, je pense, un peu dans l'indécidabilité lorsqu'on nous pose la question, est-ce qu'il s'agit d'analogie ou de catégorisation ? Donc là, sur l'exemple qui est projeté, que vous voyez une clé à l'ancienne mode, on va dire, et puis une clé de type carte magnétique, et qu'on vous tend à l'hôtel en disant « voici votre clé ». Est-ce que vous pensez que c'est une catégorisation ou est-ce que c'est une analogie lorsqu'on utilise ce terme ? Là encore, je pense que vous vous rendez compte que la...
C'est la fonction, c'est pas l'objet.
Oui, merci. De l'analogie ou de la catégorisation ? Ouais. D'accord ? Donc, on voit pourquoi c'est intéressant d'avoir une vision globale sur les deux notions. Et puis... Après, il y a un autre aspect également qui me semblait important de souligner, c'est la question de... Il y avait cette question concept quotidien, concept scientifique. La question des concepts scientifiques, j'ai dans l'idée commune, dans la vision quotidienne, dans l'idée peut-être stéréotypée des concepts scientifiques, les concepts scientifiques sont souvent vus comme des concepts figés, et ce qui leur donne un statut un petit peu isolé. Alors que je pense que c'est intéressant aussi de les voir aussi dans leur développement, ce que d'ailleurs font beaucoup ici, mais je pense que c'est important d'avoir cette perspective parce que, par exemple, sur la question de la formalisation, il y a un exemple que j'aime bien citer qui est issu d'une conférence en physique des métaux, et le conférencier commence sa conférence en disant « Je vais vous dire quelque chose, vous ne savez pas ce qu'est un métal, un grand groupe de gens ne sait pas ce qu'est un métal, savez-vous comment on appelle ces gens ? On les appelle des experts en physique des métaux. » Pourquoi ce type de citation est intéressante ? Parce qu'elle montre justement que ce sont des concepts évolutifs, ce qui enlève évidemment rien à l'expertise très très forte d'un physicien expert en physique des métaux, mais ça montre la vision dynamique que l'on peut avoir, y compris des concepts scientifiques. Et puis, lorsqu'on regarde l'évolution, là encore, de concepts dans différentes sciences, dans différentes disciplines, qu'on se pose la question, par exemple, pourquoi Pluton a cessé d'être une planète, par quel processus est-ce que Pluton a cessé d'être une planète, eh bien, on voit que parmi les astronomes, ça a été un débat qui a été difficile, d'accord ? C'est-à-dire que l'appartenance à la catégorie planète, elle est aussi subtile à décider, d'une certaine manière, que d'autres situation d'appartenance catégorielle, les taxinomies des espèces qui sont en évolution très très profonde et qui n'ont les approches de type Linné sont, sont beaucoup, ont beaucoup moins de présence sur le plan contemporain. Si on se pose la question combien est-ce que l'être humain a de sens, au sens de la de perception, je ne sais pas ce que vous, quelle est votre réponse première, mais en tout cas, tout le monde est d'accord que l'être humain a beaucoup plus que 5 sens, et il n'y a pas de consensus sur le nombre de sens qu'a l'être humain. Lorsqu'on doit définir ce que c'est que le vivant, c'est très difficile d'obtenir un consensus, tout comme la question qu'est-ce que c'est qu'une langue, ce n'est pas non plus un objet clairement... donc on se rend compte que ces catégories qui ont ce statut de catégorie scientifique ont en fait des caractéristiques assez analogues aux autres catégories que construit l'être humain. Sur la place du processus d'analogie, bon, tu as cité quelques mathématiciens. Il y a Henri Poincaré a été un de ceux qui a observé, qui s'est aussi intéressé à nos processus de, au processus de découverte scientifique, et il accordait une grande place à l'analogie. Donc il y a cette citation qui le marque bien. Croira-t-on d'autre part qu'ils ont toujours marché pas à pas sans avoir la vision du but qu'ils voulaient atteindre ? Il a bien fallu qu'ils devinassent le chemin qu'ils conduisaient, et pour cela, ils ont eu besoin d'un guide. Ce guide, c'est d'abord l'analogie. Donc là, c'est un peu l'idée de qu'est-ce qui va guider l'intuition du mathématicien ? C'est-à-dire que ce qui lui donne le sentiment que quelque chose est vrai, ce qui va guider sa recherche, c'est avant de se lancer dans une démarche assez systématique de démonstration, il y a l'idée de l'inspiration par analogie. Et puis, il y a aussi cette phrase qui est souvent citée de Poincaré, où on voit ces espèces d'illuminations. Donc ça, c'est encore un cas un peu particulier, mais c'est dans le cas où une analogie apparaît, qui peut s'avérer, dans certains cas, tout à fait féconde, comme c'est le cas de celle-ci. Donc l'idée me vint, avec les mêmes caractéristiques de brièveté, de soudaineté, de certitude immédiate, que les transformations de formes ternaires indéterminées étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Et c'est une analogie qui va être tout à fait féconde pour Poincaré. Et puis plus récemment, si on regarde Cédric Villani, qui a eu la médaille Fields il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé que c'était assez intéressant la façon dont lui-même se décrit, décrit sa personnalité de mathématicien, décrit ce qui fait selon lui son originalité. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Ce sont les liens cachés entre différents domaines mathématiques qui ont fait ma réputation de chercheur. Ces liens sont si précieux. Ils permettent d'éclairer l'un et l'autre des domaines impliqués dans un jeu de ping-pong où chaque découverte sur une rive en entraîne une sur l'autre. 3 ans après ma soutenance, je découvrais un improbable lien. Dans la foulée, je développais la théorie de l'hypocoercivité fondée sur une nouvelle analogie. » Et puis un peu plus loin, en 2007, soupçonnant quelques... harmonie cachée, je devinais une relation forte, un lien qui semblait sorti de nulle part, et puis une ferme croyance en la recherche d'harmonie préexistante. Donc il y a aussi cette croyance dans des analogies encore cachées. Après tout, Newton, Kepler et tant d'autres ont montré l'exemple, le monde est tellement plein de liens insoupçonnés. Donc vous voyez cette idée de la découverte de ces analogies comme marquant sa personnalité de chercheur. Il me semble aussi que c'est intéressant en général, le fait d'utiliser le terme d'invariant me semble également tout à fait adapté, hein, mais de se dire, bon, dans une certaine situation, comment est-ce que, j'ai pris un exemple où il me semble que c'est assez intéressant de parler à la fois d'analogie et d'invariant. Donc on a un exercice, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans la technique, mais un endomorphisme, un espace vectoriel E à ses sous-espaces triviaux comme seul sous-espace stable, montrer que E est de dimension finie. Donc ça, c'est une version dans le cadre des espaces vectoriels d'un exercice de mathématiques. Et puis ensuite, on a une autre version du même exercice, mais dans le cas ensembliste. Une application d'un ensemble E dans lui-même à ses sous-parties triviales comme seule sous-partie stable, montrer que E est de cardinal fini. D'accord ? Et en fait, on se rend compte que si on veut, on résout l'un, il y a des grandes chances qu'on arrive à résoudre l'autre. Et puis également, on peut bien sûr s'intéresser à qu'est-ce qui rend possible le fait que la résolution de l'un permette la résolution de l'autre. Et là, on est justement dans ce type d'invariant qui peut fonder des analogies entre les espaces vectoriels et les ensembles, qui sont tout à fait intéressants. Mais j'ai l'impression que, que l'analogie est vraiment tout à fait au centre dans ce cas. Et puis... après, il y a la question de la relation sur les aspects de formalisme. Je crois que c'est important de ne pas perdre de vue qu'il y a d'un côté les formalismes, qui sont bien sûr absolument cruciaux et consubstantiels des mathématiques, mais en même temps, même si on a un formalisme comme celui-là, qui est le cas ici pour définir une fonction continue, cela ne signifie pas que le mathématicien va appliquer le formalisme sans une conceptualisation sur laquelle il repose. Je pense que Marx sera le premier à être d'accord là-dessus. Et de ce fait, cette conceptualisation, c'est ça le concept sous-jacent à la notion de fonction continue. Et ce concept sous-jacent, en particulier lorsque on n'est pas encore expert dans le domaine, c'est-à-dire un élève au lycée ou à l'université va pouvoir d'un côté apprendre le formalisme, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il va avoir en tête ? Il va avoir en tête l'idée que la continuité, comment ça se voit ? Ça se voit par le fait qu'on a une ligne d'encre qu'on peut tracer sans lever le stylo. Et de ce fait, comment est-ce qu'il va voir les fonctions continues ? Eh bien, ce sont les fonctions, la catégorie qui est formée par les fonctions qu'on peut lever, qu'on peut dessiner sans lever le stylo. Et c'est ça, bien sûr, qui les rend analogues entre elles. C'est les fonctions qui sont traçables sans lever le stylo. Alors, si on est sur cette analogie, on se rend compte que ces fonctions vont être dérivables presque partout. D'accord ? Parce que à partir du moment où vous les tracez sans lever le stylo, il y a l'idée que vous pouvez toujours faire un zoom, c'est-à-dire les regarder avec de plus près. Et de plus près, on trouvera toujours des points sur lesquels on peut faire des tangentes. Et donc, il y a cette idée de portion lisse et de la possibilité de tracer des tangentes à la courbe. Et c'est assez connu, il y a d'ailleurs eu des démonstrations erronées de cela, c'est faux, bien sûr, et en particulier Ampère pensait l'avoir démontré, alors à une époque où le formalisme des fonctions continues n'était pas du tout aussi clair, mais c'est juste pour dire que cette analogie naïve de la fonction continue comme traçable était présente, y compris chez les scientifiques. Si on est sur cette analogie, bien sûr, c'est vrai qu'il y a toujours des points de dérivabilité, mais si on quitte l'analogie et qu'on est plus vraiment sur la définition de ce qui caractérise une fonction continue, eh bien, on commence à voir qu'en fait, il y a une possibilité de les rendre dérivables nulle part, et la possibilité de les rendre dérivables nulle part, c'est de créer des points de discontinuité, des points d'instabilité aussi proches qu'on aille de l'image de la fonction. Et ça, ça a été fait avec l'idée que chaque point va être une somme, le résultat d'une somme infinie, ce qui fait que aussi proche que l'on soit de ce point, eh bien, on ne pourra jamais avoir une possibilité de tracer une tangente. Ce qui me semble intéressant dans ce phénomène, c'est d'une part la présence de l'analogie trompeuse, mais ça, on en a vu des tonnes de démonstrations, et le fait que les analogies puissent tromper, je pense que tout le monde l'a bien saisi. C'est pas ça qui me semble le plus important. Mais ce qui me semble le plus important, c'est la réaction des mathématiciens de l'époque. Et la réaction des mathématiciens de l'époque, alors vous avez Charles Hermite qui dit « Je me détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui n'ont point de dérivée. » Et puis Poincaré, qui est un petit peu plus mesuré, mais qui n'est pas non plus très content, qui dit « La logique engendre parfois des monstres. On vit surgir toute une foule de fonctions bizarres qui semblaient s'efforcer de ressembler aussi peu que possible aux honnêtes fonctions qui servent à quelque chose de la continuité, mais pas de dérivée. On les invente tout exprès pour mettre en défaut les raisonnements de nos pères et on n'en tirera jamais que cela. D'accord ? Et vous voyez que ce sont de grands mathématiciens de leur époque qui, finalement, sont victimes de stéréotypes sur les fonctions continues, c'est-à-dire qu'ils traitent les fonctions continues comme des espèces, enfin des fonctions continues jamais dérivables, comme des aberrations. Et c'est toute proportion gardée, mais c'est quand même assez proche de la situation dans laquelle on se dirait, bon, bah, les situations de soustraction dans lesquelles on ne perd rien, c'est pathologique. D'accord ? Si on croyait que la... Vous êtes d'accord ? Oui. Bon. Et pourtant, bon, ben maintenant, on a tout à fait accepté dans la communauté que les fonctions, ce type de fonctions, c'est-à-dire les fonctions qui sont continues partout mais dérivables nulle part, eh bien, elles sont en fait denses dans les fonctions continues. Donc, il y en a partout, il y en a un nombre gigantesque, elles n'ont rien d'aberrante, et elles sont parfaitement intégrées aux mathématiques à travers la notion d'objet fractal.